Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans les carnets du monde. Embarquement immédiat pour une grande vadrouille qui nous permettra d'entendre comment va la vie ailleurs. Et ça ne va pas fort, évidemment, pour les Kurdes de Syrie. Depuis que le président turc a lancé son offensive sur leur territoire, le Rojava, plus qu'un territoire, le Rojava, c'est un système politique qu'ils avaient fondé et qui est menacé de disparaître. Qu'en pensent les Kurdes de Turquie ? Jean-Sébastien Soldaini y était il y a quelques jours encore, il va nous raconter. Ça ne va pas fort non plus pour les jeunes Égyptiens qui, depuis quelques semaines, sont réprimés par le régime en place. Quelques petites manifs contre le maréchal Al-Sissi fin septembre ont été le prétexte à une vague d'arrestations arbitraires qui ont visé tout le monde et personne, et en particulier les militants connus de la révolte de 2011, comme Esra Abdel Fattah, kidnappée en pleine rue.
Pendant tout ce temps, elle était détenue dans un lieu secret, frappée et torturée. Ils l'ont attachée aux pieds et les mains tendues vers le plafond pour qu'elle ne puisse pas s'asseoir. Ils voulaient la forcer à débloquer son téléphone. Pendant 8 heures, elle a refusé. Ils ont enlevé son gilet et l'ont étranglée avec, jusqu'à ce qu'elle étouffe et accepte. Et l'interrogatoire a commencé.
Le maréchal Al-Sissi qui verrouille toute expression en Égypte, ce sera un grand reportage avec des témoignages édifiants. Et la planète, comment va-t-elle ? Elle est belle, nous dira Mathieu Ricard, qui passe du temps à la contempler, à s'émerveiller. L'émerveillement, c'est le fil rouge de son dernier livre de photos et l'occasion d'un grand appel à prendre soin de cette planète fragile, comme le font par exemple ces moines en Thaïlande en organisant le ramassage du plastique.
Dans les devoirs religieux bouddhistes, il est écrit très clairement qu'il faut tenir sa maison propre et l'environnement aussi. Il est interdit de jeter des déchets dans l'eau, de salir la nature autour de soi.
Nicolas Caro nous parlera du nouveau roman de Timur Vermès. C'est cet auteur allemand qui avait fait un carton avec « Il est de retour ». C'était le retour d'Hitler. Et puis Joseph viendra avec quelques recettes glanées à l'étranger contre la dépression hivernale. Les carnets sont ouverts, direction la Turquie.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Rojava, c'est le nom que les Kurdes de Syrie ont donné à leur territoire dans le nord-est du pays, le long de la frontière turque. Et au-delà, Rojava, c'est un projet politique. Ces dernières années, les Kurdes de Syrie avaient réussi à étendre ce territoire en remportant des victoires sur Daesh. Et c'est donc là que se concentre l'offensive turque lancée le 9 octobre, avec comme conséquence directe un gros déplacement de population, plus de 200 000 personnes, et puis l'évasion de plus de 100 prisonniers du groupe État islamique qui sont dans la nature, chiffre avancé cette semaine par les Américains. Vous savez que les Kurdes sont un peuple réparti en fait sur les territoires de 4 pays, la Syrie, l'Irak, la Turquie et l'Iran. Eh bien ce projet Rojava faisait rêver les Kurdes au-delà des frontières de la Syrie, rêve brisé aujourd'hui. Jean-Sébastien Soldaini est allé en parler avec des Kurdes de la grande ville de Diyarbakir, c'est au sud-est de la Turquie, tout près de la frontière syrienne. Reportage.
Diyarbakir a beau être considéré par les Kurdes de Turquie comme leur capitale, il n'y a rien dans les rues pour témoigner de cette identité. Pas de statue, pas de monument. Les autorités n'en veulent pas, affirment les membres de cette communauté. Certains se disent même écrasés par les efforts déployés par le gouvernement pour implanter des drapeaux turcs sur les ronds-points ou encore des portraits du président Erdogan tout au long de la grande autoroute qui s'enfonce vers le centre-ville. Le seul îlot de défense de l'identité kurde semble être un centre culturel géré par Bab. Pour y entrer, il faut s'engouffrer dans une discrète impasse et grimper au deuxième étage d'un immeuble. Le local n'a pas vraiment pignon sur rue, mais quelques Kurdes s'y retrouvent au gré de leurs envies de lecture. En ce moment, la situation du Rojava, le Kurdistan syrien, occupe les discussions. Baber rêvait de la création d'une province autonome de l'autre côté de la frontière, de quoi relancer les revendications pour un Kurdistan en Turquie.
Ce serait comme des dominos. Il y a eu des années de lutte en Irak. Il y a eu et il y aura encore des gens qui se battront en Syrie. Du coup, les gens commencent à se mobiliser. Donc forcément, nous, ça nous motive. Et bien sûr, ici, le gouvernement commence à s'en inquiéter. Si les Kurdes s'approprient un bout de Syrie, forcément, les Kurdes de Turquie voudront quelque chose aussi. La province autonome du Kurdistan irakien est comme un phare pour nous.
Mais l'intervention turque au nord de la Syrie a douché les espoirs de voir la création d'une nouvelle province kurde autonome, comme en Irak, un lieu où Roger avoue se rendre régulièrement, y voir son drapeau flotter sur les bâtiments officiels, savoir que des cours de langue kurde sont donnés dans les écoles, c'est un bol d'air, dit-il. En revanche, hors de question pour lui d'aller s'y installer.
Oui, il y a des Kurdes qui vivent pleinement leur identité en Irak. Mais nous ne devons pas nous dire que cette partie a été libérée et nous devons nous y installer tous. Non. Notre rôle est d'abord de protéger notre zone à tous, en Turquie, et ensuite nous devons faire en sorte que le Kurdistan s'étende. Si on va tous en Irak, que vont-ils dire de nous ? Que nous fuyons ? Nous ne voulons pas fuir.
Rester pour mieux militer, ne pas abandonner ce qu'ils considèrent être comme leur terre. Certains choisissent l'engagement politique, mais les opposants kurdes sont sous étroite surveillance lorsqu'ils ne sont pas emprisonnés. Rengi, une jeune professeure, veut insister sur une chose : faire vivre l'identité kurde à travers sa culture.
En tant que kurde, j'achète principalement des livres kurdes et je fais mon maximum pour suivre l'évolution de la littérature kurde. Et puis, pour les enfants, je me suis rendu compte que nous n'avons pas beaucoup de documents pour les faire travailler là-dessus. Je me suis donc mise à constituer cette documentation. Et évidemment, j'encourage régulièrement ma famille à parler la langue. C'est ce que je fais avec mes cousins et mes neveux. Quand il y a des événements culturels, je me débrouille pour acheter des places et assister à ces événements. C'est ma façon de promouvoir ma culture.
Une promotion qui ne peut se faire que sur une partie restreinte du territoire turc. Impensable, me dit l'un d'eux, d'écouter des chansons en langue kurde dans l'ouest du pays. Cela reste du domaine de l'intime ou encore dans quelques restaurants de spécialité locale. Diyarbakir, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Jean-Sébastien Soldaini est avec nous en studio à Paris, rentré ces derniers jours. Bonjour.
Bonjour.
Vos interlocuteurs dans le reportage parlaient d'identité kurde, de culture. On peut rappeler que Rojava, le Kurdistan syrien, ce n'est pas juste un territoire, c'est un vrai projet politique.
Oui, il y a le projet militaire dont nous avons largement parlé ces derniers mois. C'est celui qui a permis de lutter contre Daesh. Mais à côté, moins connu, il y a la construction d'un idéal politique, pour ne pas dire une sorte d'utopie où l'État n'existe plus, c'est un système ultra décentralisé, le lieu de décision c'est la commune, et comme ce ne sont pas de grosses agglomérations, ce n'est pas très compliqué de trouver un terrain d'entente entre les habitants, donc c'est la société civile qui est au centre de l'organisation politique. Du coup, chaque commune peut choisir les langues d'enseignement, par exemple, même les langues officielles pour faire ses démarches administratives. Beaucoup de villes ont ainsi fait une grande place à la laïcité, probablement liée au rejet de Daesh et à l'influence et aux horreurs qu'a commis Daesh dans ces régions-là. Donc chacun peut librement pratiquer sa religion. Et puis, de la même manière que les femmes kurdes sont aux avant-postes dans les combats contre les djihadistes, elles ont aussi un poids politique important. Les habitants du Rojava peuvent aussi espérer avoir leurs propres ressources. Le territoire possède 80% des réserves de pétrole de la Syrie et il représente 40% de la production agricole d'avant-guerre. La faiblesse, au-delà de l'aspect militaire, c'est que cette zone, elle est peuplée minoritairement par les Kurdes. Eh bien, ils ont réussi à contourner cette difficulté en faisant des alliances avec les tribus arabes locales qui, elles, sont majoritaires. La vraie faiblesse, et nous l'avons vu ces derniers jours, c'est qu'au-delà d'un soutien militaire et logistique des Occidentaux, personne n'a reconnu officiellement ce territoire.
Ouais, et c'est donc une organisation politique menacée de disparition aujourd'hui avec l'offensive turque. Autre précision, Jean-Sébastien, tous les Kurdes de Turquie, en l'occurrence, ne rêvaient pas de ce projet.
Non, dans les rues de Diyarbakir, ce qui peut être considéré comme l'épicentre de l'identité kurde en Turquie, tout le monde ne prône pas l'existence d'un Kurdistan syrien ou même l'existence d'un Kurdistan turc. Ce n'est pas parce qu'on est kurde qu'on soutient le PKK ou les forces kurdes de Syrie, ce qu'on appelle les YPG. J'ai longtemps parlé avec des jeunes hommes du coin. Ils avaient même adopté la rhétorique de Recep Erdogan. Ils allaient jusque-là. Ils soutiennent l'intervention militaire de leur pays contre les combattants kurdes, qu'ils considèrent eux aussi comme terroristes. C'est comme ça que Recep Erdogan aussi les appelle, car le PKK a mené des attentats dans la région. Alors pour faire court, ils veulent protéger leur identité, leur culture, sans nécessairement avoir besoin d'une province autonome.
L'objectif d'Erdogan, c'était de créer une sorte de zone tampon hein, le long de ces 400 km de frontière et sur 32 km de profondeur en Syrie. Où en sont les différentes discussions de ces derniers jours ?
Eh bien, pour l'instant, nous sommes loin de ce que veut Ankara sur les 400 km de frontière que les Turcs souhaitent contrôler. Seuls 120 sont occupés par leurs soldats et c'est un territoire que les Kurdes ne souhaitent pas contester. Tout le reste du Rojava est désormais aux mains des Syriens et des Russes qui patrouillent dans la zone, notamment sur la portion de territoire où se trouvent les puits de pétrole et les terres agricoles dont je vous parlais. Reste à savoir combien de temps tout ça va tenir. Vous avez là des soldats turcs, syriens, russes, des forces kurdes. Le mélange, on peut le penser, est assez instable. Alors, il y a une proposition qui est faite par les Allemands, c'est de créer une zone de sécurité sous contrôle international. Le chef des forces kurdes y est favorable, mais ni Vladimir Poutine, ni Recep Erdogan n'ont validé l'idée.
Merci pour toutes ces explications, Jean-Sébastien. Et vous continuerez bien sûr à nous raconter ce qui se passe et à décrypter ce qui se passe sur cette frontière entre la Turquie et la Syrie, où il y a effectivement beaucoup de monde. À bientôt, dans les carnets. C'est en Égypte qu'on va dans un instant. Là-bas, des milliers de citoyens ont été jetés en prison ces dernières semaines. Le maréchal Al-Sissi empêche toute velléité d'exprimer une opposition.
Europe 1, les carnets du monde.
13h14, avec vous Sophie Larmoyer, on prend maintenant la direction de l'Égypte, où la société civile fait face à la plus massive vague d'arrestations depuis l'intronisation du maréchal Al-Sissi en 2014.
C'était fin septembre, quelques centaines de personnes s'étaient rassemblées dans plusieurs villes pour exiger le départ du président égyptien du pouvoir. En réaction, plus de 4000 personnes ont été interpellées ces dernières semaines, dans la rue ou chez elles. Ils sont ouvriers, artistes, avocats et activistes de renom comme Esra et Alla Abdel Fattah. Alors ils ont le même patronyme mais ne sont pourtant pas de la même famille. Ce sont deux figures de la révolution de 2011 qui n'avaient même pas participé au dernier mouvement de protestation fin septembre. Voici le reportage d'Ariane Lavrieux au Caire sur cette répression.
Dans un appartement du Caire, à l'abri des regards, Solafa Magdi a les yeux cernés de fatigue. Il est minuit et cela fait des jours qu'elle ne dort plus pour alerter l'opinion publique et essayer de sauver son amie, la journaliste Esra Abdel Fattah, kidnappée en pleine rue par des agents en civil.
On avait rendez-vous au cinéma. On l'a attendue pendant 2 heures, son téléphone était éteint. Et 24 heures après sa disparition, on a appris qu'elle allait être transférée chez le procureur. Pendant tout ce temps, elle était détenue dans un lieu secret, frappée et torturée. Ils l'ont attachée aux pieds et les mains tendues vers le plafond pour qu'elle ne puisse pas s'asseoir. Ils voulaient la forcer à débloquer son téléphone. Pendant 8 heures, elle a refusé. Ils ont enlevé son gilet et l'ont étranglée avec, jusqu'à ce qu'elle étouffe et accepte. Et l'interrogatoire a commencé.
Esra n'est pas une inconnue, c'est une des figures de la révolution de 2011. Le régime lui a interdit de voyager. Le soir de son arrestation arbitraire, elle était dans sa voiture avec un ami, Mohamed, qui lui aussi a été kidnappé, mais relâché quelques heures plus tard.
Ils m'ont jeté plus loin, au bord de l'autoroute. Ils m'ont rendu mon portefeuille et mon portable. Et ils m'ont dit, ne dis rien de ce qui s'est passé, parce que sinon, tu sais très bien ce qui pourrait arriver. Mais non, on ne va pas se taire. Esra nous a demandé de dénoncer la torture qu'elle a subie. Elle nous a dit, je n'ai pas peur et je suis prête à payer le prix. Parce que s'ils en arrivent à torturer une personnalité de sa stature, qui a des relais internationaux, imaginez ce qui arrive à tous les autres détenus. Pour nous, c'est presque une chance de pouvoir en parler et essayer de protéger les autres.
Au sud du Caire, devant la prison Tora, des dizaines de familles attendent depuis des heures pour avoir des nouvelles de leurs proches, souvent en vain. Mona Seif se dit chanceuse d'avoir pu apercevoir et parler quelques minutes à son frère, Ala. Lui est un célèbre informaticien qui venait d'être libéré après 5 ans de détention. Non seulement il a été remis en prison hors de toute procédure, mais en plus, ses geôliers l'ont déshabillé et tabassé à son arrivée.
Ils ont décidé de le mettre dans une prison de haute sécurité, dans une cellule totalement isolée. Mais on essaye de faire pression pour au minimum le transférer ailleurs, parce que chaque jour passé là-bas, il est en danger. Il est gardé par les mêmes officiers qui l'ont frappé et contre qui il a déposé plainte. Ceux qui sont au pouvoir sont très frustrés et en colère qu'après 5 ans de prison, mon frère ait toujours son état mental intact et soit toujours capable d'avoir une voix critique publiquement. On pense qu'il a été à nouveau arrêté, puis torturé bien plus sévèrement dans le but justement de le briser, pour lui infliger des traumatismes psychologiques supérieurs à ce qu'il a subi pendant 5 ans. On n'a jamais été aussi inquiet pour lui, et on n'en est plus à demander de le libérer, mais de le sauver.
Selon les ONG, les disparitions forcées et la torture sont devenues systématiques. Sur les 4300 personnes arrêtées depuis un mois, certaines ne sont toujours pas réapparues. Au Caire, Ariane Lavrieux, Europe 1.
Retour en studio à Paris et depuis le Caire, on est en ligne avec Ariane Lavrieux. Bonjour Ariane.
Bonjour.
Comment le gouvernement aujourd'hui justifie-t-il cette vague de répression et puis son ampleur ?
Déjà, les autorités ne reconnaissent qu'à moitié la réalité de la situation. Selon le ministère de l'Intérieur, seulement 1000 personnes ont été arrêtées depuis fin septembre. C'est en réalité 4 fois plus selon des équipes d'avocats et pourrait même être 7 fois plus selon des ONG de défense des droits humains. Quelques centaines ont été libérées, mais la plupart qui ont moins de 30 ans sont toujours détenues.
Qu'est-ce qu'on leur reproche ? Juste d'avoir manifesté contre le gouvernement ?
Oui, c'est ça, exactement. Mais il faut se souvenir d'abord que les manifs contre le pouvoir sont interdits depuis 2013, depuis justement le coup d'État mené par le maréchal Al-Sissi. Ensuite, beaucoup comme Esra ont été littéralement kidnappés plusieurs jours après les manifestations auxquelles ils n'avaient même pas participé. Et là, les charges retenues contre les personnes arrêtées sont très larges. Elles sont accusées d'appartenance à une organisation illégale, de diffusion de fausses informations et d'atteinte à la sécurité nationale. Des crimes qui, sous le régime actuel, peuvent valoir plusieurs années d'emprisonnement. Et dans les médias, qui sont tous contrôlés étroitement par le régime, on les qualifie de terroristes.
Qui croit ça en Égypte aujourd'hui ?
De moins en moins de monde, c'est vrai, gobe cette propagande, d'autant que les rafles ont été tellement massives que même des supporters du régime se sont retrouvés derrière les barreaux. Ouais. J'ai rencontré Magued, son cousin à 20 ans. Il marchait simplement dans une grande ville au sud du Caire. Il a été embarqué par la police le 20 septembre dernier.
C'est un jeune étudiant qui ne s'intéresse pas à la politique et qui soutient le gouvernement. Et puis il a été arrêté dans la rue, il est resté en prison pendant au moins 2 semaines, il n'a rien eu à manger pendant des jours. Avec les autres, il ne savait pas pourquoi il était là. Je crois que ça a changé sa vision des choses. Il se rend compte que même si tu ne parles jamais de politique, tu peux te retrouver dans cette merde.
Alors pour l'instant, Ariane, les pays occidentaux alliés de l'Égypte, en particulier la France, ont finalement très peu réagi et condamné la répression.
Oui, aux États-Unis, Donald Trump a carrément déclaré qu'il n'était pas inquiet. Et en Europe, les réactions restent assez timides. Aucun État ne s'est ouvertement exprimé. Seul le Parlement européen a voté une résolution il y a quelques jours pour demander au gouvernement égyptien d'arrêter les violences, de libérer tous les défenseurs des droits de l'homme. Certains députés voulaient aller un peu plus loin, voter la suspension des ventes d'armes. Mais finalement, les eurodéputés se sont contentés de prôner une révision profonde des relations entre l'Europe et l'Égypte. Et quant à la France, elle s'accroche à sa doctrine de la pression discrète, même si un diplomate me confiait que cette stratégie n'a plus aucune efficacité sur ce régime militaire. Il y a quelques mois, des activistes ont certes été libérés, comme Alaa Abdel Fattah, dont vous avez entendu la sœur, sauf que cela vient d'être remis en prison avec d'autres, des avocats, des chercheurs qui n'avaient jamais été inquiétés jusque-là. En janvier dernier, Emmanuel Macron était au Caire, il avait dénoncé les atteintes aux droits de l'homme, depuis plus rien. En revanche, en ce moment, les discussions continuent avec l'armée égyptienne pour qu'elle achète à la France de nouveaux avions Rafale et des hélicoptères.
La relation commerciale en concurrence frontale avec la défense des droits de l'homme. Du coup, Ariane, est-ce que cette répression massive a complètement étouffé la contestation ?
À court terme, oui, mais la colère n'a pas disparu, surtout chez les jeunes, les classes populaires. La pauvreté a grimpé ces dernières années. Il y a 60% de pauvres selon la Banque mondiale. Et pour beaucoup, l'Égypte est une cocotte minute qui peut d'autant plus exploser violemment que le régime a bouché toutes les soupapes.
Vous surveillez cette cocotte minute pour nous, Ariane, en faisant attention, parce que je sais que c'est pas facile en ce moment d'être journaliste en Égypte. Merci beaucoup, en tout cas, de cette alerte sur la répression en cours dans le pays. À très bientôt, Ariane.
Merci, à très bientôt.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h, vous écoutez Sophie Larmoyer sur Europe 1. Changement radical de décor, c'est le moment de parler littérature dans les carnets. Un livre dans le monde, c'est avec Nicolas Caro, Sophie.
On lit parfois des romans en se disant « Oh là là, mais heureusement que ça n'arrive pas dans la vraie vie ». Quoique, ça peut faire réfléchir. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
C'est un peu le cas aujourd'hui avec cette escale que vous nous faites faire en Allemagne avec le retour d'un écrivain.
Et vous ne pensez pas si bien dire, il s'agit de Timur Vermes. Le nom ne nous parle que moyennement en France, mais je vous donne le titre de son dernier livre. Vous allez faire « Ah oui !» Donc voici le dernier roman de l'allemand Timur Vermes. Il s'appelait « Il est de retour
ah, »,
l'histoire
oui.
d'Adolf Hitler qui se retrouve dans le monde moderne. Malgré le sujet, c'était un livre très drôle et grinçant, bien sûr. Vendu à 1 500 000 exemplaires rien qu'en Allemagne, c'est gigantesque. Timur Vermes est donc de retour avec Les Affamés et les Rassasiés chez Belfond.
Est-ce que c'est toujours aussi satirique ?
Oh oui, et c'est toujours le procédé du « et si ». En l'occurrence, « et si des migrants coincés dans un camp de réfugiés africains décidaient de marcher ensemble, c'est-à-dire un cortège de 150 000 personnes, vers l'Europe, vers l'Allemagne en particulier ». Au début du roman, on est justement dans ce camp de réfugiés. Il y a un homme qui crâne avec ses nouvelles chaussures qu'il vient d'acheter chez Zalando. Zalando, ce n'est pas le site internet, c'est le surnom d'un type du camp qui peut vous dégoter des chaussures. Il parle avec un homme, Mahmoud, qui lui crâne parce qu'il dit avoir trouvé un passeur haut de gamme. En fait, il frime parce que ni lui ni personne n'a vraiment la solution miracle pour rejoindre l'Allemagne. Mais ils rêvent ensemble du jour où ils pourront enfin arriver en Europe. Deuxième chapitre, autre ambiance, on est avec un secrétaire d'État allemand. Il est en train de se faire engueuler par son petit ami parce qu'il n'a pas encore choisi le matériau pour le plan de travail dans le catalogue. Chacun ses priorités. En tout cas, donc, le secrétaire d'État a autre chose à faire que de penser aux migrants. Il vient d'emménager avec Tommy, son petit ami, donc, et il commence déjà à le regretter.
Laissez-moi deviner, troisième chapitre.
Bravo, troisième chapitre. Et troisième personnage, Nadège Hackenbourg, une vedette de télé qui se la joue, très contente d'elle, très contente aussi de sa nouvelle série d'émission, une télé-réalité dans les camps de réfugiés qui s'appelle Ange dans la misère. C'est très classe, n'est-ce pas ? Donc, on a des migrants, des politiques déconnectées et des médias cyniques. On est parti pour un bon roman.
Je sens qu'on en prend encore pour notre grade. Et donc, les migrants déferlent en Allemagne.
En tout cas, oui, c'est l'idée de Lionel, un réfugié. 650 000 personnes débarquent. Qui peut les arrêter ? Évidemment, c'est la panique en Europe et c'est ça ce qui est bon. Timur Vermes met en place son procédé. Et après, tranquille, il observe tout ce petit monde qui se débat. Il fait son expérience de laboratoire, si vous voulez. C'est la méthode Vermes, comme nous l'explique la traductrice Mathilde Zobotke.
En fait, il déploie une espèce de protocole expérimental. Pour Il est de retour, c'était qu'est-ce qui se passerait si Hitler revenait. Et il fait pareil dans Les Affamés et les Rassasiés. Et tout ça, en fait, il le fait avec une plume très moqueuse. On peut dire qu'il est caustique, on peut dire qu'il est drôle. Mais dans le fond, quand même, il touche à chaque fois à des questions assez essentielles. Et il jette un regard sur la société. Pour la démasquer, en fait, pour se poser des questions sur qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on n'arrive pas à gérer cette crise migratoire, par exemple.
Évidemment, j'imagine qu'il nous donne des clés pour comprendre notre propre réalité.
Absolument, comme dans une fable, c'est ça l'objectif de Timur Vermes, comme dans Il est de retour d'ailleurs. Il adore aussi s'attaquer aux médias, donc à la télévision en particulier, à la société du spectacle, en fait. Il vient d'ailleurs lui-même du journalisme.
Il fait d'abord des études d'histoire et de sciences politiques, commence après à se lancer dans la littérature un peu en tant que nègre littéraire, en fait. Donc, il prête sa plume à d'autres personnes et il contribue à des quotidiens et des magazines. En fait, il travaille pendant 15 ans pour le Kölner Express. C'est un journal, disons plutôt de type tabloïd. Et il publie son premier roman en 2012. Donc c'est un best-seller inouï qui le rend complètement célèbre du jour au lendemain. C'est quelqu'un d'assez drôle, avec un humour assez pince sans rire, qui va plutôt user d'ironie et d'humour un peu aussi dans sa vie, disons, plus personnelle.
On comprend qu'il est drôle tout le temps. Est-ce qu'il est pertinent ?
Oui. D'ailleurs, en parlant de journalisme, il y a parfois dans le texte des extraits d'articles d'un magazine People qui suit la journaliste de télé. C'est très, très drôle et très, très bien fait parce qu'on dirait du vrai. Il a été journaliste. Un humour intelligent, oui, et il a une manière en fait de fuir la réalité pour mieux l'observer. Et d'ailleurs, en exergue de son livre, il cite Woody Allen qui le résume bien. « Je hais la réalité, mais c'est quand même le seul endroit où se faire servir un bon steak.
» Pas faux, pas mal. Et le bon livre donc, c'est « Les affamés et les rassasiés » chez Belfond. Merci beaucoup Nicolas de nous l'avoir proposé.
Merci Sophie.
Aujourd'hui, je vous dis à tout à l'heure, vous viendrez nous allécher avec le programme de votre émission « La Voix et le Livre ». Est-ce que vous pensez parfois à vous poser pour vous émerveiller ? Eh bien, c'est un joli programme que propose Mathieu Ricard. Et oui, c'est utile, nous dira le moine bouddhiste et photographe. Dans un instant, il est notre invité.
Europe 1, les carnets du monde.
Nous sommes avec Sophie Larmoyer, comme tous les dimanches, de 13h à 14h sur Europe 1. Il est maintenant 13h30, l'heure d'accueillir votre invité, Sophie. Moine bouddhiste, c'est un homme engagé aussi pour l'environnement. Il s'agit de Mathieu Ricard.
C'est toujours un plaisir de recevoir Mathieu Ricard dans les Carnets du Monde. Bonjour Mathieu Ricard.
Bonjour cher ami.
Merci d'être avec nous. Vous résidez dans l'Himalaya depuis une cinquantaine d'années. Vous étiez venu nous en parler l'an dernier.
Oui.
Vous êtes moine bouddhiste et photographe. Et grâce à ce médium formidable qu'est la photo, régulièrement vous partagez avec nous votre regard sur le monde. Un nouveau livre vient de paraître, plein de ces paysages de chez vous en Himalaya, mais aussi d'Islande, de Patagonie, du Yukon qui est dans le nord-ouest du Canada. Émerveillement, c'est le titre de ce grand livre. C'est un hommage à la beauté de notre monde. Ça peut paraître un peu évanescent comme ça, mais en fait, c'est surtout un livre engagé qui contient aussi des textes comme des cris du cœur, un appel à prendre conscience de la crise écologique que nous, avons déclenché. Quel rapport entre l'émerveillement et la crise écologique, Mathieu Ricard ?
Tout d'abord, si on s'émerveille, c'est-à-dire qu'on a quand même côtoyé la nature. Moi, j'ai vu l'Himalaya devenir de plus en plus noir au bout de 50 ans. Les glaces au Tibet qui, pendant l'hiver, supportaient pendant 3 mois le bétail, les camions. Maintenant, c'est 3 semaines. Donc, les gens du coin, ils n'ont jamais entendu parler du réchauffement global dans les médias et de la bouche des scientifiques, mais ils le savent très bien. Alors, pourquoi l'émerveillement ? C'est vrai que l'émerveillement mène au respect. C'est-à-dire quand vous êtes émerveillé par un paysage sublime, par un arbre extraordinaire, par des animaux sauvages, ben vous n'allez pas, la seconde d'après, vouloir les détruire, les endommager, gâcher tout cela. Donc le respect, du coup, mène à l'idée de prendre soin de ce qui vous émerveille. Et prendre soin, du coup, ça amène à l'action. Donc c'est une manière constructive et inspirante de se mobiliser, si vous voulez, pour protéger cette merveilleuse nature qui nous entoure.
C'est un premier pas indispensable, en fait, pour arriver à l'action.
Et puis après, on peut s'émerveiller aussi du fait que la nature, l'exposition à la nature favorise la santé physique, mentale, il y a toutes sortes d'études passionnantes, et que le contraire aussi est nuisible à notre créativité, à notre santé. Donc l'ensemble de la chose fait qu'on est extrêmement motivé pour ce qui est le grand défi du 21e siècle, c'est-à-dire de préserver, malgré tout, de souffrances considérables et de bouleversements de notre environnement.
S'émerveiller, c'est ne pas être indifférent, d'abord.
Pas être indifférent, ne pas être blasé, ne pas être négatif, ne pas dire « c'est pas grave, on s'en fout, la nature, coupons les forêts, l'Amazon, on n'a rien à cirer, faisons du soja pour faire de l'élevage industriel, pour augmenter encore plus le CO2 et le méthane, on y va, après nous le déluge, c'est pas grave ».
On ne l'entend pas beaucoup, ça, quand même. Personne n'ose.
On l'entend de 2-3 fous furieux qui sont à la tête de nations puissantes.
Ouais.
Et malheureusement, ça a des conséquences très graves.
Personne n'ose le dire, mais certains le font. Pendant ce temps qu'on va passer ensemble, Mathieu Ricard, on va entendre un reportage et un témoignage qui sont en résonance avec ce regard que vous portez depuis des années. Alors d'abord, justement, on va entendre des moines qui sont en Thaïlande. Malgré la petite taille du pays, en fait, la Thaïlande est le 5e pollueur mondial des océans. Je ne sais pas si vous le saviez. Les Thaïlandais utilisent en moyenne 8 sacs plastiques par jour et par personne. Et en plus, le pays récupère des tonnes de poubelles, de nos poubelles.
Bah c'est sympa.
Surtout depuis que la Chine a interdit l'année dernière l'importation des déchets plastiques en provenance des pays développés. Alors, en réaction, il y a un mouvement citoyen anti-plastique qui est en train d'émerger là-bas en Thaïlande, avec en première ligne les moines bouddhistes. Carole Izou, notre correspondante à Bangkok, a passé un moment avec ses bonzes écolos. Voici son reportage.
Équipés de gants, de pelles et d'une bonne dose de bonne humeur, ces volontaires sont venus à près d'une centaine ce matin pour nettoyer la plage de Bangkrachao, une zone boisée à quelques kilomètres de Bangkok. Située au bord de l'eau, elle reçoit chaque jour des kilos de déchets plastiques charriés par le fleuve. Mère de famille, étudiants, cadres de multinationales ou associations de travailleurs migrants, toutes les composantes de la société thaïlandaise sont représentées.
On a trouvé des bouteilles, des gobelets et des bols en plastique.
Et les chaussures, les tongs là, j'en fais quoi? Ça se recycle des tongs?
Je sais pas moi.
Parmi les volontaires qui se démènent le plus, un groupe d'hommes au crâne rasé, à la toge orange, et oui, des moines bouddhistes. Ce sont eux qui organisent le grand nettoyage des environs. Ils vivent à quelques centaines de mètres de là, dans un temple surnommé le Temple Zéro Déchet. Ici, tout est ramassé, trié, recyclé. Chaque matin, ils ramassent sur terre et dans l'eau des kilos de déchets plastiques grâce à une observation rigoureuse de la nature, comme nous l'explique Ajahn Kai, l'abbé du monastère.
On collecte à une heure bien précise, à marée haute. Il y a une série de vagues qui amènent tous les déchets sur le rivage. Ensuite, avant que l'eau ne baisse, on a une fenêtre de 3 heures environ pour ramasser. Si on attend trop, alors tous les déchets sont entraînés par les courants vers l'océan. C'est important l'observation de la nature si on veut être efficace. On s'inspire des méthodes des pêcheurs.
Les déchets sont ensuite soigneusement triés, puis broyés, transformés en minuscules pastilles, puis fondus et tressés en fibres de polyester. Avec le tissu obtenu à partir des bouteilles plastiques, des robes de moines sont cousues. Il faut environ une douzaine de bouteilles pour fabriquer une robe. À chaque étape, les moines peuvent compter sur des volontaires du quartier, aujourd'hui des ouvriers birmans qui viennent chaque fin de semaine donner de leur temps.
On travaille à l'usine d'à côté. On vient aider les moines le dimanche pour faire quelque chose d'utile. On n'a pas d'argent à donner au temple, alors on vient aider sur notre temps libre pour obtenir du mérite.
Le mérite, une notion importante dans la pratique bouddhiste populaire, notamment pour s'assurer une bonne réincarnation. L'autorité morale des moines est encore très importante dans la société thaï. Pour l'abbé Ajahn Kai, protéger l'environnement est en réalité un enseignement de base de la religion bouddhiste, un devoir pour tous les pratiquants.
Dans les devoirs religieux bouddhistes, il est écrit très clairement qu'il faut tenir sa maison propre et l'environnement aussi. Il est interdit de jeter des déchets dans l'eau, de salir la nature autour de soi. Les arbres jouent un rôle important dans le bouddhisme. En produisant de l'oxygène pour l'esprit, de la joie, des couleurs, le Bouddha est né sous un arbre. C'est sous un arbre qu'il est devenu l'éveillé, puis qu'il est mort. Les arbres contiennent l'eau, la vie. Les bouddhistes ont donc le devoir absolu de protéger les arbres et même dans l'état actuel du monde, je dirais, de planter des arbres.
Mais pour changer en profondeur les habitudes de la société thaïlandaise, les moines du temple Chat Deng ont bien conscience que c'est à la jeunesse qu'il faut s'adresser. Chaque semaine, ils reçoivent donc des étudiants pour des séminaires, des formations. Aujourd'hui, un petit groupe de première année est assis en cercle autour du moine formateur. Il se saisit du sac d'une jeune fille qu'il fait passer à la ronde et demande aux jeunes d'énumérer toutes ses propriétés, ses fonctions, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à sa fabrication, du directeur marketing à la femme de ménage de l'usine qui l'a produit.
Un sac en tissu, oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Oui, allez.
Il a une fermeture éclair?
Oui, le mode de fermeture, très important, ça change tout. Au suivant.
Ici, pas de sermon sur la nécessité de consommer moins, mais simplement une attention particulière portée à l'objet pour faire prendre conscience aux étudiants de toutes les ressources humaines et matérielles mobilisées pour la production d'un seul objet et de l'interconnexion des actions humaines. La journée s'achève par une réflexion sur le bonheur. Que faut-il posséder pour être heureux ? Une réflexion essentielle, estiment les moines, pour faire diminuer la consommation en général, celle de plastique en particulier. Bangkok, Carole Izou, Europe 1.
Voilà cette réflexion qui clôt le reportage sur la notion de possession, celle de consommation. Ça vous parle évidemment, Mathieu Ricard.
C'est certain, au Tibet aussi, il y a un problème des plastiques parce que dans l'ancien temps, c'était des choses en bois, en cuir. Donc les choses, si on les jetait, elles se dissolvaient naturellement. Donc, ils ont été pris par surprise de voir que les plastiques restaient. Donc, maintenant, on essaie de faire des formations d'éducation auprès des nomades, des villageois, de tous les écoliers des écoles qu'on a construites au Tibet. Et ça prend. Et au monastère aussi, au Népal, maintenant, les moines sont, ils ont un parti vert. Et donc, quand il y a des grands rassemblements, il y a toujours un stand pour ça. Et ils sortent parfois, plusieurs fois dans l'année, pour nettoyer les rues autour du monastère. Et du coup, les fidèles sont un petit peu gênés que ce soit les moines qui fassent ça. Donc, tout le monde descend dans la rue, aide les moines. Donc, on essaie un peu, à notre humble niveau, de faire quelque chose.
On se retrouve dans un tout petit instant, Mathieu Ricard. J'aimerais qu'on revienne sur cette notion de consommation qui est un petit peu au cœur du problème que vous évoquez. À tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Et c'est avec vous, Sophie Larmoyer, jusqu'à 14h sur Europe 1. Mathieu Ricard est l'invité des carnets du monde aujourd'hui pour lancer un cri du cœur écologique.
Prendre soin de notre planète et pour ça, commencer par la regarder avec émerveillement. C'est le message de Mathieu Ricard dans son dernier livre. Plein de magnifiques photos qui nous transportent bien loin et de textes militants pour une prise de conscience de l'urgence du défi environnemental qui est là devant nous. Mathieu Ricard, on évoquait la consommation et cette société de consommation. Est-ce que vous croyez que les gens sont prêts à considérer que la société de consommation est allée trop loin? Quand on voit, par exemple, comme la jeune Greta Thunberg est raillée par une partie de ceux qui ont la parole aujourd'hui, à la fois les médias, à la fois les décideurs, qui se moquent volontiers d'elle parce qu'elle ne prend pas l'avion, parce qu'elle a des principes très tranchés. Est-ce que vous croyez que la société est prête à évoluer?
C'est un peu minable de se moquer d'elle, parce qu'en fait, tout ce qu'elle dit, c'est nous, les générations à venir. Écoutons les scientifiques. Je ne vois pas pourquoi on peut se moquer de ça, parce qu'on ne les écoute pas assez et de loin. Et donc, c'est un cri du cœur qui... Quand elle a dit aux chefs d'État, aux Nations Unies, vous trahissez les générations à venir, non seulement c'est fort, mais c'est juste. Donc, écoutons-la.
Est-ce que la société est prête à faire la grande bascule, finalement, vers un autre mode de consommation, une autre manière d'envisager leur quotidien?
Alors, l'évolution des cultures est un domaine d'étude très intéressant. Et l'évolution des cultures, ça prend un petit peu de temps. C'est-à-dire, ça prend en général une génération.
On a le temps, là?
On sait, ben justement, on sait que le tabac provoque la mort depuis 30 ans et ça a mis un certain temps avant qu'on interdise le tabac dans les lieux publics et malgré tout, il continue à tuer 6 millions de personnes par an. Donc ça prend du temps. Néanmoins, il y a quand même, par rapport à il y a 20-30 ans, il y a un énorme changement de prise de conscience. Alors, la société de consommation, c'est pas non plus démoniser tout un ensemble, simplement se rendre compte qu'un citoyen américain moyen émet 200 fois plus de CO2 qu'un Zambien, qui naturellement aspire à avoir un peu plus d'accès à l'énergie. Donc, il faudrait mettre des énergies renouvelables à 100%, cesser de sponsoriser au taux de 400 milliards par an les énergies fossiles pour mettre tous les efforts dans la recherche et la technologie des énergies renouvelables. Il y a beaucoup à pas faire. Simplement, il y a une sorte de tiédeur des politiques. Et je crois que Winston Churchill disait « Un homme d'État pense aux générations à venir, un homme politique aux prochaines élections ». Donc c'est ça qui est dommage, c'est que c'est des mesures qui ne seraient pas forcément populaires. Les 2000 scientifiques du GIEC recommandent par exemple de diminuer de 80% la consommation de viande.
Ben bon, oui.
Sur France 2, il y avait une émission où on demandait aux gens « Êtes-vous prêts à ne pas manger de viande et de poisson un jour par semaine ?» 98% des gens ont dit oui. Donc vous voyez, il y a quand même une prise de conscience qui est très encourageante.
Et en même temps, il faudrait plus que ça pour réduire de 80% la consommation de viande. Et puis certains se disent peut-être que ce n'est pas son steak qui va changer les choses et que peut-être justement là, on atteint à sa liberté individuelle.
Alors ce n'est pas seulement ça, c'est l'idée de la dilution de la responsabilité. Ce n'est pas moi qui ai créé le réchauffement global. Et j'ai une amie scientifique qui disait si le CO2 était rose et que le ciel devenait de plus en plus rose, on commencerait à s'alarmer un petit peu. Donc l'évolution nous a éclipsés à réagir émotionnellement à des dangers un peu plus lointains, proches, je veux dire. Donc si la maison est en feu, on s'en va. Si on dit qu'elle va être en feu dans 30 ans, ben, on verra. C'est ça le problème.
Comment vous expliquez l'inertie justement des décideurs? Parce qu'ils ont accès à toutes ces données scientifiques dont vous parlez.
Oui, mais ils considèrent quand même les scientifiques un peu comme des empêcheurs de tourner en rond, parce que forcément, ça sera des mesures assez peu populaires. Quand on voit, quand on essaie d'augmenter le prix de l'essence, s'il fallait le doubler... Alors ça toucherait aussi beaucoup les gens les plus démunis. Donc c'est ça qui est injuste. Il y a une grande injustice dans le réchauffement climatique. Ce sont les personnes les plus pauvres qui sont aussi le plus touchées.
Quand vous évoquez la sobriété heureuse que vous prenez, peut-être pour remplacer la société de consommation frénétique, ça fait sourire beaucoup de dirigeants, beaucoup de décideurs, beaucoup de monde finalement.
Oui, ben ça prouve que de nouveau la science n'est pas prise en compte parce qu'il y a des études qui montrent que les gens qui sont le plus portés à la consommation et au matérialisme sont généralement moins heureux, en moins bonne santé, ont moins de véritables amis, jouissent moins de l'existence et que ceux qui mettent davantage l'accent sur les valeurs intrinsèques, c'est-à-dire l'amitié, savoir être bien avec soi-même, être dans la nature, ils sont plus heureux, ils ont plus d'amis, plus concernés par les problèmes globaux.
Mathieu Ricard, tout ça, ce sont des études très sérieuses.
Tout à fait, c'est pas
vous êtes vous-même un scientifique.
Moi, je suis pas un moine bouddhiste toc. Dans mon livre sur l'altruisme, il y a 1600 références scientifiques. Donc, l'idée, c'est d'être rigoureux.
C'est pas de la naïveté, de l'idéalisme. C'est fondé, toutes ces études-là.
Les scientifiques, malheureusement, ils sont quand même ennuyés qu'on ne tienne pas compte de ce que la réalité.
Alors, s'émerveiller de tout, de rien, retrouver un regard d'enfant sur la nature, c'est un petit peu ce que vous prenez. Je vous propose d'écouter une femme qui, depuis 3 ans, en Belgique, anime un cours de philosophie et de citoyenneté dans une école primaire à Bruxelles. Ce cours a été créé dans la foulée des attentats du 21 mars à Bruxelles. Esma Saban, c'est le nom de cette enseignante, a décidé d'en faire un cours d'empathie. Isabelle Horry, notre correspondante, est allée la rencontrer chez elle. Je vous propose de l'écouter.
Le fait d'être en empathie avec l'autre, pour moi, c'est nécessaire pour développer sa citoyenneté et développer aussi le fait de coopérer. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, écoutez les gars, si chacun d'entre nous, on vivait sur une île déserte, ben, je pense qu'on n'aurait pas besoin du cours et qu'on n'aurait pas besoin d'être en empathie parce que, enfin voilà, on est tout seul, c'est OK. Mais l'idée, c'est qu'on est ensemble. Et donc, on travaille sur les plus grandes émotions, donc la peur, la sérénité, l'amour, la tristesse, la colère. Je travaille à travers un album qui s'appelle « La couleur des émotions ». Donc ça, c'est très, très simple. Donc je lis l'histoire et puis ils s'identifient vraiment à chacune des émotions. Et alors, des fois, on les surjoue, on joue la colère. Et donc là, ils s'imprègnent bien de chacune des émotions de base. Et puis ensuite, comment moi je suis quand je suis en colère? Est-ce que tu as déjà observé quelqu'un quand une autre personne est en colère et comment est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'on réagit tous de la même manière? Donc c'est comme ça que je développe l'empathie avec les tout petits. Ils ont des petits pots. Enfin, ce sont des dessins de petits pots. Et ils doivent remplir, eux, ce qui les met en colère et leur réaction face à la colère. Et puis ensuite, la tristesse, la peur. Et puis chacun présente. Et donc, dans une classe, ah oui, moi aussi, je réagis comme ça. Ah, moi aussi, ça me met en colère. Ah non, moi, pas du tout. Et ça permet de rentrer en empathie aussi avec l'autre et de se dire, bah, y a plein de choses différentes et c'est OK.
Est-ce que vous constatez que le fait d'avoir fait ça, ça a changé quelque chose dans leur comportement ?
Ils deviennent acteurs, en fait. Ce que je ressens, c'est qu'ils se responsabilisent face à ce qui se passe. Ah oui, c'est vrai, c'est moi. Ah oui, c'est vrai, là, j'étais en colère. J'aurais dû... Parce qu'on sait que quand on est en colère, l'idée, c'est peut-être de s'éloigner d'abord et puis revenir, mais réagir à chaud, c'est pas... Il y a des enfants qui ont directement accroché sur le système de réaction, action-réaction. Ils sont venus me dire, madame, merci. Ça nous a apporté un peu plus d'outils pour régler les conflits dans la cour de récréation. Il y en a qui sont tout simplement venus me dire que ça leur fait du bien, en fait, de déposer. Qu'ils ont l'impression de vider quelque chose, de s'accepter aussi, de se dire « bah oui, c'est vrai, je suis triste ». Et c'est OK parce que ça existe en fait, je ne suis pas tout seul. Cet espace que j'ai ouvert, cette permission entre guillemets, cette liberté que j'ai donnée à travers ce cours, ça a permis à des enfants de se sentir un peu plus légers et libres. Après, est-ce que ça a un impact positif sur leurs résultats scolaires? Ça, je ne saurais pas vous dire. Il faudrait que je pose la question à mes collègues.
Oui, bah alors c'est formidable. Mathieu
Ricard, vous réagissez directement.
Ça, en fait, dans toutes les écoles. Parce qu'en fait, il y a aussi des études tout à fait sérieuses qui montrent que l'intelligence émotionnelle, donc cette institution qui se développe avec beaucoup de talent et de discernement, prédit beaucoup mieux l'épanouissement et la réussite dans la vie universitaire, professionnelle, que le quotient intellectuel et les facultés logiques de résoudre des problèmes ou d'engranger des informations. On manque tout cet aspect de cultiver un équilibre émotionnel, cultiver des valeurs, parce qu'on dit qu'il faut rester neutre, mais les enfants ne restent pas neutres, ils apprennent des valeurs au travers des jeux vidéo violents qui sont très délétères. Et donc, qui pourrait être contre la bienveillance, l'empathie, la sérénité, l'honnêteté, la franchise, la camaraderie?
On parle de liberté gagnée, c'est ce que dit cette enseignante, pour chaque enfant. Et vous dites que ça fonctionne de la même manière pour les enfants dans le contact avec la nature.
Oui, alors on a montré, des études ont montré que les enfants qui étaient souvent exposés à la nature, quand ils revenaient dans les classes, étaient beaucoup plus créatifs dans la manière de trouver des solutions à des problèmes. Parce que la nature vous montre comment la nature elle-même, les espèces entre elles, la symbiose, toute la complexité, l'interdépendance, comment la nature résout des problèmes. Et d'autres études sont très troublantes quand ils publient dans des revues médicales anglaises, montrent que les enfants qui ont grandi exclusivement dans un milieu urbain ont une probabilité accrue de 10% de risque de schizophrénie et de dépression. C'est quand même inquiétant.
Parmi tous les gens qui s'assoient sur les données scientifiques que vous citez et que vous citez abondamment dans les textes que vous proposez dans ce livre, il y a des gens très importants, de très grands pays. On pense à Donald Trump, on pense à Jair Bolsonaro aux États-Unis et au Brésil. Ces gens-là, ils sont élus. Pourquoi le populisme progresse par ignorance ?
Malheureusement, oui, un manque d'éducation, un manque d'ouverture au monde. Aux États-Unis, des gens assez discernants disaient qu'on a négligé l'éducation des classes moyennes et des classes pauvres pendant presque 30 ans aux États-Unis. Quand les gens vous disent qu'ils ne croient pas au réchauffement climatique et qu'ils écoutent ça sur Fox News, ils n'ont pas connu le monde, n'ont pas voyagé, n'écoutent pas les nouvelles internationales, n'écoutent certainement pas les scientifiques. Il y a une méfiance accrue, ça a été montré aussi. Depuis les 20 dernières années, on se méfie des scientifiques. C'est quand même incroyable. Trump a dit que les scientifiques du GIEC ont un agenda. C'est-à-dire qu'ils ont un but caché. S'il y a quelqu'un qui a un agenda, c'est bien les industries pétrolières et autres. pourquoi ces scientifiques qui ne cherchent uniquement qu'à essayer de débrouiller un peu l'écheveau très complexe des changements climatiques auraient-ils un agenda autre que d'établir ce qui se passe ?
L'urgence que certains décrivent peut faire peur. Comment finalement avancer sans se décourager ? Si on devait avoir un message un peu positif là,
alors,
pour
disons,
terminer.
Il ne faut pas non plus faire la politique de l'autruche. Donc avoir peur à un certain moment, ce n'est pas trop mal. Mais ensuite, voir toutes les solutions qui existent. Alors, les scientifiques nous disent que les solutions existent. Mais ils disent aussi que ça changerait, impliquerait des changements majeurs dans notre manière de vivre. Bon, c'est à nous de choisir. Alors, il y a d'autres manières. Ce livre sur l'émerveillement, ce sont des belles images sur la nature. Il y a une campagne des Verts en Allemagne qui a utilisé les mêmes méthodes, c'est-à-dire qui a mis dans la ville des images très belles de nature sauvage. Et ça a eu un impact très constructif sur les gens. On dit, bah oui, c'est vrai ça quand même, on devrait, ça serait trop dommage de gâcher la part sauvage du monde.
L'émerveillement comme un super pouvoir qui serait donc très précieux. C'est le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions de La Martinière. Il y en a un autre, plus petit, très joli, avec une quarantaine de photos en noir et blanc qui s'appelle Contemplation, qui est accompagné de pensées. On peut en prendre une par jour, peut-être pour redonner un peu espoir dans la nature humaine, nous inciter à prendre soin de notre environnement. Il y a une expo photo à la Fondation Good Planet dans le domaine de Longchamp, dans le bois de Boulogne. Une autre expo dont vous me parlez
au Festival
ici.
Des photos animalières et de nature à Montier-en-Der au mois de novembre.
Parfait. Et puis, je tiens à préciser que tous les droits d'auteur de tous vos livres sont intégralement reversés à votre association humanitaire Karuna Sechen et à des projets humanitaires que vous menez, enfin que vos équipes mènent dans l'Himalaya. C'est
en
ça,
Inde, au Népal Inde. Et au Tibet, voilà. On nous aide environ 380 000 personnes par an.
Ça compte beaucoup. Merci beaucoup Mathieu Ricard de votre visite.
Un plaisir.
Europe 1, les carnets du monde.
Et après l'émerveillement proposé par Mathieu Ricard, voici une autre forme de sagesse, celle de Joseph Chovanec, qui nous accompagne comme chaque dimanche dans les carnets du monde. Joseph est philosophe, autiste Asperger, et il est le grand voyageur de l'équipe.
Et nous voilà partis pour un petit voyage en autistan. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Alors j'avoue que je ne savais pas qu'elle existait, c'est le cas depuis 2003. Aujourd'hui, c'est la journée européenne de la dépression.
Oui, Sophie, à l'approche de l'hiver, la date paraît très bien choisie. Ouais. Autant dire qu'il est nécessaire de trouver des solutions à ce problème de santé publique majeur. Durant mes pérégrinations à travers le monde, j'ai pu observer comment faisaient les peuples du monde. Et sans surprise, c'est dans le Grand Nord qu'on trouve les adaptations les plus extrêmes. Ouais. Traditionnellement, au Groenland ou en Sibérie, l'hiver se passait en groupe. Ouais. Autant en été, les gens étaient relativement isolés, autant en lutter contre la dépression due au froid, au manque de lumière, par une vie commune.
Mais ça veut dire qu'on se regroupe exprès pour l'hiver ?
Tout à fait, Sophie. Les maisons d'hiver traditionnelles qu'on appelle balagan dans l'espace russophone sont non seulement des prouesses techniques d'isolation, évidemment, mais sont également bâties autour de l'idéal de socialisation. Mais oui, chez les non-autistes, pour se remonter le moral, on socialise. Hein. Détail assez révélateur, lors de l'arrivée des colons et des missionnaires danois au Groenland, leur première priorité fut d'interdire les maisons communes d'hiver, car ils soupçonnaient les habitants de ne pas y suivre les règles de la morale chrétienne.
Ça, c'était avant, Joseph, mais aujourd'hui, dans le Grand Nord, comment lutte-t-on contre la dépression ?
Par exemple, en Islande, on a trouvé une astuce. Hein, et on fait une sorte de thérapie linguistique à la déprime hivernale. En hiver, on apprend une langue du sud, typiquement des cours d'espagnol ou de portugais. Il peut s'agir, certes, d'une préparation à un voyage physique, mais comme peu de gens peuvent se permettre de s'absenter la moitié de l'année, eh bien, apprendre une langue, se trouver des correspondants, cela permet au moins de voyager mentalement.
Et puis malheureusement, on peut aussi souffrir de dépression plus au sud.
Eh oui, Sophie, la déprime hivernale, tout est une question d'habitude. Ouais. Quand on est habitué à beaucoup de soleil, le moindre nuage est déprimant. J'ai pu l'observer en Nouvelle-Calédonie. Là-bas, la grande source de détresse mentale est ce qu'on nomme les coups d'ouest. Il s'agit d'épisodes hivernaux où le vent s'inverse par rapport aux alizés habituels et où la température baisse de plusieurs degrés. Alors certes, un Français de métropole jugerait le climat climat qui règne alors semi-paradisiaque. Mais selon les standards locaux, il s'agit d'une catastrophe. C'est donc durant cette période des coups d'ouest qu'ont lieu les festivals Caldoche, pour oublier cela.
Qu'est-ce que c'est, ces festivals Caldoche?
Bon, il y a des classiques comme le fameux rodéo de Bourail, hein, donc chevaux et parfois taureaux aussi. Mais aussi des activités plus surprenantes. Par exemple, le festival du verre de Bancoul de Farino.
What?
Ça a lieu à la fin de l'hiver austral et il convient de manger des vers de Bancoul. Ce sont des espèces de grandes larves blanchâtres, énormes, crues, qu'il faut d'abord dénicher dans le sol. Difficile d'imaginer la foule que cette activité attire. Mes amis avaient voulu m'y emmener, mais l'endroit était tellement encombré que nous n'avons pas pu nous y garer. Ce fut l'une des rares fois dans ma vie où la présence d'une foule m'avait soulagé. Grâce à elle, je n'avais pas dû manger la larve vivante.
C'est ça, sauvé par la foule, quoi.
Ah, c'est très rare, mais ça arrive. Alors, quelle serait ma stratégie antidépression préférée? Des années en arrière, un vieux monsieur prof de Pashtun partout m'avait expliqué que dans l'ancien temps, les Afghans avaient pour coutume de dormir tout l'hiver. Alors, je m'étais dit impossible, biologiquement parlant. Ceci étant, un peu plus tard, me retrouvant à mon tour en Asie centrale, j'ai pu observer l'extraordinaire capacité au sommeil long dans des conditions extérieures mauvaises. On plonge dans une sorte d'état second, fait de sieste, de thé, de poésie, sans mettre le nez dehors et les jours de passé. En fin de compte, peut-être c'est cela justement la vie véritable. Comme le disait Jalaluddin Rumi, prince des poètes, « Le boss et harf deri dam, to kebera nenei, martoro kabo sad behasap. » Donc je revais mon beau manteau de mots et plonge dans le sommeil.
Voilà, l'hibernation en quelque sorte. J'aime bien votre petit programme sieste, thé et poésie. Hein. Quelle bonne idée. Merci beaucoup Joseph.
À
dimanche prochain. Les carnets du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés. Merci de partager aussi, si le cœur vous en dit. Le podcast de l'émission est sur europe1.fr. Sophie Mallier a réalisé ces carnets. Florence Gimalac m'a aidé à les préparer. Merci à L2. On revient dimanche prochain sans faute dès 13h. Restez tous à l'écoute et portez-vous bien.